Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
Nous voudrions aujourd'hui aborder le thème du sens de la justice dans des circonstances particulières au travers du débat entre Albert Camus et François Mauriac. Et nous recevons pour cela Raphaël Drey. Raphaël Drey, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître donc une contribution sur ce thème, Camus et Mauriac, quelle justice, dans ce petit livre, Albert Camus, du refus au consentement, qui vient de paraître au PUF et qui est coordonné par Jean-François Mattei. Alors vous étudiez dans cette contribution deux moments que nous allons examiner ensemble. Un, 1944, le moment de l'épuration, et deux, la guerre d'Algérie. Alors j'ajoute que ce sujet vous touche particulièrement. Vous êtes né en 1942 à Constantine et vous allez être privé de la nationalité française par la législation antisémite de Vichy. Et en 1961, donc pour la partie de la guerre d'Algérie, comme 1 million d'autres Français, vous allez quitter l'Algérie et rejoindre la métropole. Et vous avez fait paraître donc deux livres qui racontent ces récits de votre vie et des épreuves traversées. Donc « Le pays d'avant, Michalon 2008 » et « Les pays d'après, Michalon 2009 ». Alors j'ajoute que vous êtes professeur émérite à l'Université de droit et de sciences politiques d'Aix-en-Provence, que vous êtes engagé à la fois dans votre vie personnelle, dans les débats que vous menez et dans votre vie d'auteur, dans le dialogue des religions et des cultures, et on peut dire que vous êtes à beaucoup de croisements, croisements de la pensée juive, de la pensée politique, de la psychanalyse, et que vous êtes aussi au croisement d'identité. Vous dites, je cite donc « Les pays d'après », ce thème qui vous est cher, « L'Algérie, ma terre natale, la France, ma patrie intellectuelle, et Israël, la terre de mon âme biblique ». Alors, abordons, si vous le voulez bien, ces deux moments qui sont des moments d'accord, de confrontation, de différenciation sur le thème de la justice. Alors, 1944, libération, donc se posent à ce moment-là les questions de l'épuration. Mauriac est un auteur confirmé, qui a 59 ans, et Camus, donc, est un écrivain encore débutant, puisqu'il n'a fait paraître réellement que l'étranger. Lui, donc, est à combat. Il a 31 ans, et tous deux sont du côté de la résistance et ont une conception de la justice qui semble effectivement à la fois proche et puis différente, et au fur et à mesure de leur dialogue, à ce moment-là, vont apparaître des séparations, des différences. Alors, première chose, quel est pour vous, au début, parce qu'il y a différents thèmes qui sont abordés dans ce moment 1944, quelle est, selon vous, la différence essentielle d'opposition de position en ce qui concerne la justice entre Camus et Mauriac à ce moment-là?
Oui, vous avez bien fait de rappeler que la différence d'âge chronologique et puis aussi littéraire entre Mauriac et Camus. Mauriac est considéré à ce moment-là comme le plus grand écrivain français vivant. D'ailleurs, quand De Gaulle arrivera en France, il ira le faire chercher en voiture officielle. Une notoriété encore plus grande que celle de Malraux, et c'est pas peu dire, hein. Et Camus est un auteur débutant que Mauriac aborde au début avec un peu de condescendance. Voilà. Quand dans ses premiers textes, Camus se démarque un peu de Mauriac, Mauriac le rabroue un peu, on le demande quel titre il lui parle sur ce ton, dit-il au nom de son œuvre future, comme si il n'avait pas de titre actuel à croiser le fer avec Mauriac. Mais en effet, ce sont des temps qui sont extrêmement durs, très très durs, et durant lesquelles les valeurs, hein, qui sont des valeurs immémoriales, comme les valeurs de justice, de liberté, sont très très malmenées par les événements. Et donc Camus, comme Mauriac, ont pris une part active à la résistance, encore que l'honnêteté exige de dire qu'ils n'ont pas été résistants au même titre que Jean Moulin. Hein. Mais leur résistance a été effective, et sur le plan intellectuel, et par rapport aux prises de risques que l'un et l'autre ont assumées. Et lorsque le territoire de la France commence à être libéré, se pose la question de quelle est l'attitude à adopter face aux collaborateurs. Et immédiatement se mettent en place deux approches de la justice. Une approche qui se veut intégralement justicière, et qui est celle de Camus, au motif qu'il y a un temps pour chaque chose, voilà, et que l'on est pour le moment dans le temps de la reddition des comptes. Tandis que pour Mauriac, on ne peut jamais dissocier à aucun moment l'exercice de la justice et le besoin de pardonner, avec la phase intermédiaire de la relativisation des convictions. Du fait que tout être humain, quel qu'il soit, même s'il est du bon côté, est exposé au péché, est exposé au mal, et qu'il faut remercier le Créateur de n'y avoir pas été soi-même précipité. Voilà. Donc il y a deux conceptions de la justice qui s'affrontent. Et pour Camus, dans un premier moment, la justice doit s'appliquer intégralement, parce que ceux qui seraient capables, ceux qui seraient en mesure de pardonner, eh bien justement leur vie a été prise par ceux qui demandent le pardon ou qui bénéficieraient de ce pardon.
Alors, on a l'impression qu'il y a une double opposition entre les deux sur ce thème-là. La première, effectivement, c'est le sens d'une justice chez Camus qui n'est que de l'ordre de la justice humaine et qui ne renvoie à rien d'autre, d'une part. Et deuxièmement, chez Mauriac, l'idée qu'effectivement, il importe de matiner la justice d'un certain sens du pardon. Et autre chose, on a l'impression que une des autres différences, c'est que Camus met à l'intérieur de cette offense des personnes une offense faite à la France qui permet d'avoir une justice plus raide, plus stricte.
Oui, je crois que chacun bat ses cartes d'emblée. Hein. Camus est agnostique, un croyant, athée, je ne sais pas comment on peut dire. Mauriac, lui, est profondément chrétien. Et pour lui, il va de soi qu'il y a le monde d'en bas et puis il y a le monde d'en haut. Et la figure du Christ. Et le Christ est une figure de pardon et de justice et de pardon, mais d'emblée. Et une considération politique est très très prégnante aussi, c'est la nécessité de sauvegarder l'avenir de la France par d'ores et déjà le souci de la réconciliation. Donc il ne faut pas que, de la même manière que la collaboration a produit de l'irréparable, il ne faut pas que le jugement de la collaboration produise à son tour de l'irréparable dont l'unité de la France ferait les frais. Alors il y a une opposition qui est frontale. Hein. Pour Camus, c'est ce pardon prématuré qui risque de mettre en question l'unité de la France, parce que l'on n'aura pas tiré les leçons de ces années terribles. Mais pour Mauriac, il va de soi que l'être humain est exposé au péché et qu'il faille d'ores et déjà penser à son salut. Et ce qui est très important dans ce débat, c'est la figure de De Gaulle, parce que pour Mauriac, De Gaulle est le libérateur de la France, mais De Gaulle est, aux yeux de Mauriac, hein, le premier des catholiques de France. Et donc, il plaide et il agit pour que De Gaulle adopte cette version de la justice, qui est d'ailleurs assez partagée par le général lui-même, hein, qui pense au lendemain de la libération. Voilà, donc c'est un débat d'une très très haute tenue, d'une très grande ampleur, et à propos duquel il me paraît difficile de dire le dernier mot. C'est vraiment un problème de confrontation d'une valeur extrême avec une situation extrême.
Enfin, l'opposition, si j'entends bien ce que vous dites, elle est dans l'exigence de la justice et de toute la justice pour Camus, ici et maintenant. Et pour Mauriac, c'est celle effectivement de la justice et de l'au-delà de la justice, qui est à la fois la prise en compte du politique et à la fois la prise en compte du pardon. Et comme vous le dites, effectivement, il semble que cette position-là donc, a été adoptée pour maintenir le consensus français par le général de Gaulle, presque pour une raison politique indépendante des personnes. Mais est-ce que...
Ce qui n'empêcherait pas, si vous le permettez, par exemple, que ces deux grands écrivains qui savent ce que les mots veulent dire, ce qui ne les empêche pas de se retrouver presque côte à côte dans le cas Brasillach. Parce que dites-moi, Brasillach, oui. C'est un, aux yeux de Mauriac comme aux yeux de Camus, c'est un homme qui a trahi, mais c'est aussi un écrivain qui a failli. Mais dont on peut comprendre que les états d'âme, les débats soient compréhensibles à l'échelle humaine. Alors, Mauriac interviendra toujours avec les mêmes motivations, mais Camus, parce que sans être dans la compassion chrétienne, il y a au bout du compte le sentiment que la solidarité humaine doit s'exprimer de toute façon. Et ça commence par la solidarité entre écrivains, parce que seuls les écrivains savent et sont conscients du fait qu'on peut parfois aborder des dilemmes très très difficiles. Alors, pour Camus, il va de soi que Brasillach soit un traître, sur ces deux plans que j'ai dit tout à l'heure, qu'il a persécuté plus faible que lui, qu'il a dénaturé la langue française en la faisant servir à la diffamation, à la délation. Mais voilà, il y a toujours une marge qui permette de comprendre pourquoi le criminel le plus endurci agit comme il l'a fait.
Alors ça me permet de rebondir sur un autre thème qui est celui de la responsabilité de l'écrivain, pour savoir s'il y a une différence entre les deux. Rappelons donc que Brasillach est un écrivain reconnu, extrêmement jeune, et qui, effectivement, s'est extrêmement engagé de façon très active et très militante dans la collaboration. Et donc, il a été condamné, et le droit de grâce ne lui sera pas accordé par le général de Gaulle sur apparemment une photo qui était indiquée dans le dossier comme quoi Brasillach aurait revêtu l'uniforme allemand, ce qui pour le général de Gaulle était une offense absolue, et apparemment ce n'était pas le cas. Bon. Donc, que dites-vous donc de cette responsabilité de l'écrivain par opposition ou dans l'opposition entre Camus et Mauriac ?
Oui, d'abord, il faut rappeler que Camus et Mauriac sont deux des plus grands prosateurs du XXe siècle. Vous savez, une fois, on demandait à Furt Wengler quel était à ses yeux le plus grand musicien. Et lui, il répondait invariablement, mais c'est Bach. Voilà. Alors, il y a bon, mais... Et Mozart ? Il y a Mozart, c'est le seul. Voilà. Alors vous voyez, Camus et Mauriac sont de très très grands écrivains, de très grands artistes de la langue. D'ailleurs, on a le sentiment que quand ils écrivent vraiment naturellement. Mais ils savent aussi ce que les mots veulent dire et parfois à quel point ils fourvoient ceux qui les entendent quand leur sens est lui-même fourvoyé. Et pour l'un comme pour l'autre, l'écrivain, c'est celui qui engage d'abord toute l'histoire de la langue française, donc l'histoire de la France, et que dévoyer les mots de la langue française est une extrême gravité. Alors, ce qui fait, c'est très très important, que lorsque ces deux hommes débattent, et débattent parfois de manière virulente, à la limite, presque la diatribe de la controverse, tous les deux, j'allais dire, retiennent leurs plumes, comme on dit de deux boxeurs, qu'ils retiennent leurs coups, parce qu'ils se respectent. La première fois que Mauriac a entendu la prose de Camus, dans Combat, il s'est écrié « J'ai enfin trouvé mon interlocuteur », a dit la Pierre Brisson. « J'ai enfin trouvé mon interlocuteur ». Et il faut ne jamais oublier qu'il y a 27 ans les séparent et que Camus est tout à fait au début de sa carrière. Et, mais je crois que Camus est animé par ce sentiment très très profond chez les pieds noirs, parce que c'était un pied noir, le respect de l'aînesse. Pour lui, Mauriac, c'était un aîné et on respecte un aîné, même si on n'est pas d'accord avec lui. Et ce qui donne cette très très grande tenue des articles échangé dans le journal de Mauriac et puis dans Combat.
Alors, je crois qu'il faut préciser ça pour nos auditeurs. Donc, je renvoie en particulier donc, à ce cahier Albert Camus, donc Camus à Combat, qui a été publié chez Gallimard il y a déjà quelques années, donc, où il y a effectivement toute la reprise des articles de Camus. Et ce qui est assez sidérant, je crois que vous l'avez souligné, mais on peut le souligner à nouveau, c'est que dans ces temps agités, où effectivement ce n'était pas des temps calmes et qui laissaient supposer que chacun soit tranquillement en train d'exprimer ses points de vue, donc il y avait de l'agitation, la teneur des échanges entre Camus et Mauriac sont sans agressivité aucune, avec une qualité à la fois humaine et intellectuelle qui mérite, et vous y avez consacré cet article, qui mérite d'être signalé. Pour...
Et qui devrait faire école d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça me permet de rendre hommage en passant à Jacqueline Lévy-Valency, qui a colligé vraiment tous les textes de Camus dans Combat, qui est malheureusement décédée trop tôt. C'était ma collègue à l'université d'Amiens. Et
vous,
elle n'était pas
pied noir.
Oui, bien sûr, je lui ai dédié mon étude parce que elle m'avait invité à la célébration du 50e anniversaire de l'étranger, du cinquantenaire de l'étranger. Elle a énormément fait pour Albert Camus, ne serait-ce que pour la nouvelle édition de ses œuvres dans la Pléiade. C'était une très, très grande camusienne.
Alors, je voudrais qu'on termine sur cet élément-là, sur deux points. Le premier, c'est qu'il semble quand même qu'après coup, Camus ait donné raison à Mauriac sur l'attitude qu'il a eue. Premier point. Et deuxième point, je cite donc ce que dit Jean Lacouture à propos de ces échanges, où il note quand même, donc Jean Lacouture, entre autres choses, biographe en l'occurrence de François Mauriac, où il note un ton, celui de Camus, un ton de remontrance, tout de même un peu haut, on dirait d'un Saint-Just faisant la leçon à quelques Girondins tremblants.
Je ne partage pas du tout l'opinion de Jean Lacouture, qui est parfois un peu trop hagiographique. Et il faut faire attention, parce que quand on est hagiographe, on provoque des écrits en sens inverse. Je pense aux dernières biographies un petit peu sulfureuses qui ont été consacrées à Mauriac. Non, je crois qu'il y avait, sur une question de fond, deux visions très très différentes du problème. Et justement, le fait qu'au bout du compte, Camus ait rendu le point à Mauriac montre la qualité de son esprit, et puis surtout la qualité de ses comportements, parce que ce sont des sujets qui sont d'une telle virulence, d'une telle gravité, qu'il est très rare que l'un des deux protagonistes le cède à l'autre.
Alors justement, expliquez-nous en quoi est-ce que Camus a donné raison, d'une certaine façon, à Mauriac contre lui-même.
Oui, parce que Camus, n'oublions pas que ses articles sont écrits à chaud, alors qu'on tire encore dans les rues de Paris.
Et que la guerre n'est pas finie.
Et que la guerre n'est pas finie, que la France est encore occupée, qu'il y a beaucoup, beaucoup de règlements de compte, des règlements de compte qui dénaturent le sens même de la justice dont on se prévaut par ailleurs. Et puis, un peu de temps va passer. Et je crois que chacun fait un pas vers l'autre. Et que je reviens encore une fois à cette notion de respect de l'aînesse. Hein. Camus sait que Mauriac a plus de temps de vie que lui, a déjà eu plus d'expérience littéraire aussi. Et donc, avec le temps qui passe, il prend conscience que la nécessité de la réconciliation n'est pas du tout subsidiaire. Qu'il y va vraiment de l'unité de la France, qu'on est passé très, très rapidement de la libération du territoire français à un autre type de guerre. Camus va écrire, comme Mauriac d'ailleurs, sur Hiroshima. Et ils vont se rendre compte tous les deux que l'humanité est fragile, que la planète l'est aussi, et que, bon, il faut que justice soit rendue, mais de telle sorte qu'elle ne se dénature pas elle-même. Voilà. Vous savez, je crois que c'est deux grands écrivains, parce que le premier, l'écrivain établi, l'aîné, reconnaît que le cadet a de l'avenir devant lui, qu'il faut l'écouter, et Camus reconnaît que c'est Mauriac qui avait raison. Ce qui n'empêche pas que, dans le cadre que chacun a élaboré pour sa part, que c'est deux voix qu'il faut écouter. Si je pouvais prendre cette image, je dirais qu'il faut les écouter en stéréophonie, tous les deux.
Et alors, ce qui est d'autant plus frappant, c'est qu'effectivement, on voit là un exemple plutôt admirable d'un débat démocratique.
Ah oui, c'est très très rare.
Je dis démocratique parce que dans ses articles de combat, donc, Camus indique que celui qui est démocrate est par définition modeste. Et donc, écoute l'autre, dialogue avec l'autre, et dans des temps qui sont ceux-là, mais d'autres aussi qu'on connaît ou qu'on a connus, où effectivement le point de vue qui est le mien doit avoir raison sur le vôtre, cet exemple-là, ce moment-là, ce dialogue-là est, me semble-t-il, exemplaire d'une démocratie modeste.
Oui, parce qu'il faut encore une fois revenir à la virulence de cette époque, à la violence de cette époque et à la violence des arguments qui étaient échangés. Et n'oublions pas que le Parti communiste représente une très très grande partie de l'opinion publique française, qu'il a des positions très très arrêtées sur la libération, sur l'épuration. Donc voilà, il faut purger le territoire et le Parti communiste lui-même est déjà considéré comme le parti de l'étranger. Donc la langue française devient presque une langue de poing. Ça sert à se battre, ça sert à se faire la guerre. Et je pense que, moi j'ai commencé à lire Camus une fois arrivé en France, pour moi ce qui m'a frappé, si vous voulez, le sentiment d'aînesse que Camus éprouvait vis-à-vis de Mauriac, moi je l'ai éprouvé très vite vis-à-vis de Camus, et pas du tout pour des raisons là chronologiques, mais l'aînesse de l'expérience, l'aînesse de l'écriture, voilà, donc il faut savoir reconnaître ces intervalles aussi.
Peut-être aussi une consanguinité territoriale.
Oui, peut-être ça aussi, mais surtout la manière dont on aborde des débats virulents, parce que moi je m'étais rendu compte aussi, mais ça sera peut-être le deuxième point de notre discussion, à quel point ce qui avait sévi dans l'avant-guerre, pendant la guerre, et puis dans l'immédiate après-guerre, sévissait aussi dans la manière d'aborder les problèmes de la guerre d'Algérie.
"1989-2009, 20 ans qui bouleversèrent le monde, de Berlin à Pékin." C'est le titre de l'ouvrage de Thierry de Montbrial, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Il dresse une analyse de l'évolution des relations internationales, 20 ans de transition pour comprendre les fondements du siècle qui s'ouvre. 1989-2009, 20 ans qui bouleversèrent le monde, de Berlin à Pékin, une émission éclairage à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Abordons, si vous voulez bien, la deuxième partie, donc, qui est effectivement ce dialogue, mais moins direct, entre Mauriac d'une part et Camus sur la question de l'Algérie ou, de façon plus générale, sur la question du Maghreb. Donc vous rappelez dans votre contribution que le 8 mai 1945, donc, il y a à la fois la victoire donc, contre l'Allemagne et le début des incidents ou de ce qui peut être considéré à partir de 1954 comme la guerre d'Algérie, donc assétif, tuerie d'Européens et répression.
Ah oui, des émeutes très très violentes, voilà, très sanguinaires, voilà. Réprimées avec une violence inouïe. Quoi.
Voilà. Et là, vous précisez là-dedans que, effectivement, dans votre contribution, que Camus, donc comme tout le monde le sait, qui est né en Algérie, a acquis là-bas un sens de la justice qui exige à la fois la mesure et qui exclut l'excès. Donc Camus cherche.
Si vous
vous permettez, allez-y.
Non, mais
allez-y.
D'abord, dans tous les articles de l'avant-guerre, quand Camus écrit sur la détresse et la misère économique de la Kabylie, Pour lui, il est incontestable que cette population majoritaire subit une injustice injustifiable.
Alors, c'est justement sur
il
ça.
Il écrit ça, il a 20 ans, hein, 22 ans. Hein.
Alors, je rappelle juste chronologiquement pour nos éditeurs, donc Mauriac, donc, qui est l'écrivain que l'on connaît, en 1952, donc reçoit le prix Nobel, ce qui arrivera aussi
à Camus. Ouais.
À Camus et donc, s'engage tout de suite après, met d'une certaine façon son prix Nobel au service de la libération, peut-on dire, du Maghreb, donc sur l'Algérie, etc.
De l'indépendance des pays du constitutif du Maghreb. Oui.
Voilà, et donc il y a un article dans le Figaro du 13 janvier 1953, où là, qui fait scandale, surtout dans son milieu à lui, surtout au Figaro, où il s'oppose, dit-il, je le cite, au racisme né du lucre et de la peur qui enfante des crimes collectifs. Voilà. Alors, expliquez-nous comment est-ce que, d'une part, ce Mauriac, plutôt catalogué de droite, en vient à soutenir les mouvements de libération du Maghreb. Et après, comment est-ce que, effectivement, Camus, lui, s'engage très tôt, eu égard à ses appartenances et à son côté algérien, dans le combat pour équilibrer ou pour essayer de donner raison aux partis en présence en Algérie.
Donc il faut rappeler que Mauriac est un écrivain encore plus considérable qu'en 1945. Hein, il a reçu le prix Nobel. Ses éditoriaux sont lus par toute la classe politique. Il a des formules qui peuvent être assassines, que l'on redoute. C'est un écrivain redoutable, très très écouté. Donc un article de Mauriac, c'est toujours un article qui fait mouche. Et Mauriac, comme il le dit lui-même, est un peu en manque de grande cause. Il a toujours été à contre-courant dans son milieu, pendant la guerre d'Espagne, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il voit se déclencher les mouvements nationalistes au Maghreb. Et surtout, il voit comment les autorités françaises réagissent, toujours par la brutalité, toujours par la répression. Et c'est à ce moment-là que, voilà, il croit devoir intervenir parce que il lui semble que cette politique-là est dangereuse, d'une part, parce qu'elle compromet les chances de la France dans une région du monde qui, de toute manière, acquérera son indépendance. Et que, d'autre part, ces formes de répression, là, dénaturent le message de l'Église, alors qu'il s'agit aussi de préserver les positions de la chrétienté dans cette partie du monde arabe, une fois qu'il aura acquis son indépendance. Alors, pour Camus, il en va autrement, parce que Camus, lui, est né en terre d'Algérie. Il en connaît les complexités. D'ailleurs, les situations marocaines et algériennes ne sont pas complètement identiques. Et lui pense que ce que l'on appelle les Européens d'Algérie ont des droits équivalents à ceux de ce qu'il appelle toujours les Arabes à vivre sur cette terre. Et que, de ce point de vue-là, on dira que Mauriac a une position qui est une position de surplomb dont il ne mesure pas toutes les implications, on va dire, charnelles. Et Camus, lui, a vécu en Algérie. À ce moment-là, il vit à Paris, mais sa mère vit à Alger. Sa mère est exposée aux attentats, comme tous les civils. Et Camus a une attitude qui est beaucoup moins, on va dire, partisane et tranchée que celle de tous ces intellectuels qui prennent fait et cause pour l'indépendance de l'Algérie, pour plusieurs raisons qui sont très, très mélangées, d'ailleurs. Hein, parce que pour eux, il y va du visage de la France, du sens de la justice. Mais aussi parce que la guerre d'Algérie, c'est une manière, moi je prends cette image qui peut-être choquera, mais c'est une manière de lessiver toutes les turpitudes de la Deuxième Guerre mondiale, le fait que beaucoup de gens n'ont pas pris leur marque au bon moment. Voilà. Et moi je dois dire d'emblée que je suis plutôt du côté de Camus dans cette affaire-là, pour une raison bien bien particulière, c'est que j'ai observé d'ailleurs avec beaucoup de peine et de chagrin, ayant vécu le côté tout à fait terrible de cette guerre civile, que la plupart des grands intellectuels qui considéraient les pieds noirs comme des fascistes, comme des barbares, je pense à Mauriac, je pense à Aragon, Sartre, bien sûr, ne sont jamais venus en Algérie. Ils ne sont jamais venus sur les lieux, ne serait-ce que pour discuter avec les jeunes lycéens que nous étions.
Alors, deux choses. La première, c'est qu'on a l'impression quand même que sur ces questions-là, donc les deux écrivains dont nous parlons et le Maghreb, dont l'Algérie, tous les deux apparaissent comme des francs-tireurs, voire même des traîtres à l'égard de leur propre camp.
Ah oui, une visite de Camus, je crois que c'était en 1956 à Alger, se passe très très mal, très très mal. Ouais. Parce qu'on le considère comme un traître. Ouais.
Alors, pour Camus, expliquez-nous effectivement un peu sa position au moment de l'Algérie, qui paraît soit un peu angélique, soit un peu intenable, soit un peu impossible, et qui se met à dos à la fois les extrémistes pieds noirs et à la fois les extrémistes du FLN.
Du FLN, et puis un très grand nombre d'écrivains français. Moi, si vous voulez, c'est pas seulement parce que je suis né en Algérie que j'ai vécu les drames et les tragédies de cette guerre étant enfant puis adolescent. Hein, vous savez, ça vous apaise pas beaucoup d'avoir vécu toute votre adolescence dans une ville en état de siège. Hein. C'était le cas, parce que c'est couvre-feu à 10 heures tous les soirs. Hein. Donc, ce que je veux dire, mais il me semble que, à la différence de Mauriac, Camus essayait d'écouter les deux parties. Pour lui, il n'y avait pas d'un côté les bons Arabes et puis de l'autre côté les méchants Européens. D'ailleurs, il écrira dans l'Express un article. Et d'ailleurs, il faut noter que Camus et Mauriac écrivaient dans les... Vous savez, ils avaient beaucoup de points communs. Hein. C'était des enfants qui ont été orphelins de père très vite.
C'est ce que vous précisez, effectivement, leurs points communs dans la première partie de votre contribution. Là, effectivement.
Voilà, donc ils ont beaucoup de points communs. Mais là, moi, je serais plutôt du côté de Camus. Parce que pour Camus, il n'y avait pas... Partager les bons d'un côté et les méchants de l'autre, ça n'avait aucun sens. Pour lui, les Européens d'Algérie n'étaient pas des exploitants, n'étaient pas des capitalistes, ils vivaient petitement, ils ne faisaient pas suer le burnous, comme on disait. C'était une population qui était extrêmement insécurisée, extrêmement inquiète de son statut, de son avenir. Et pour lui, l'État français avait manqué au premier de ses devoirs, qui était de les rassurer. Ce qui va s'aggraver d'ailleurs avec la politique du général de Gaulle. Et pour lui, la position de Mauriac était trop simple. C'est très simple de juger de haut en ayant pris parti déjà et sans jamais se rendre sur les lieux, sur le lieu des débats. Bien sûr, c'était un petit peu dangereux parfois, mais et ça, peut-être, ça aurait pu avoir un impact tout à fait considérable. Moi, je raconte dans le livre que vous avez bien voulu citer à quel point j'avais été impressionné étant lycéen par des conférenciers venus de France qui, à l'Université populaire de Constantine, récitaient du Baudelaire ou récitaient du Rimbaud. On sentait que bon, le lien se faisait, y compris par la littérature française. Si Sartre était venu, si Mauriac était venu, si Malraux était venu, voilà, si Aragon était venu. Donc, le sentiment que nous avions, ce qui fait que, pour nous, des journaux comme Le Monde, ça, c'était l'abomination de la désolation. On avait le sentiment que les plus grands écrivains français, c'est-à-dire qui écrivaient dans la langue que nous apprenions au lycée et au collège, finalement nous méprisaient, quoi. Finalement nous méprisaient, comptaient pour rien les souffrances que nous endurions, et puis jugeaient du haut de l'Olympe, quoi.
Mais est-ce
et
qu'on
que
a
ça,
pas...
c'était une certaine forfaiture aussi.
Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression, quand on vous lit, qu'il y a comme un croisement dans la conception de la justice entre Camus et Mauriac ? En 1944, Camus apparaît plus raide dans son sens de la justice, et Mauriac, qui a plus d'expérience, comme vous le dites, a plus le sens de la complexité et de l'entre-deux. Et que 10 ans après, de certaine façon, Mauriac, lui, est peut-être plus simple ou simpliste, c'est ce que vous dites, et Camus tient plus les deux côté, les deux parties, et donc met plus de prudence au sens fort et grec du terme dans ses jugements.
Oui, mais parce que Camus est beaucoup plus impliqué charnellement, quoi qu'il vive à Paris depuis qu'il a gloire littéraire. Hein. Ce n'est pas une simple notoriété, c'était deux grands glorieux de la littérature française. Donc sa mère vivait à Alger, dans un des quartiers les plus populaires, et il était tout à fait obsédé par le fait que la suite d'un attentat, elle perde la vie, qu'elle soit égorgée. Vous savez, les deux auteurs ont traîné une formule malheureuse et à l'emporte-pièce. Mauriac a toujours traîné avec lui la formule assassine de Sartre. Dieu n'est pas un artiste, Mauriac non plus. Et Camus a traîné toujours cette formule entre la justice et ma mère, j'ai choisi ma mère. Mais parce qu'il semblait à Camus que, aussi bien du côté des écrivains, des intellectuels français qui prenaient fait et cause de manière comme ça unilatérale dans la guerre d'Algérie, ils ne prenaient pas en compte l'autre aspect du problème. C'est une population souffrante qui n'était pas coupable de la situation que l'État français avait laissé s'installer depuis près de 130 ans. Et donc, pour Camus, c'était l'autre côté des choses qui n'était jamais pris. Et de la même manière, il ne partageait pas l'avis des indépendantistes du FLN, parce que pour lui, les indépendantistes du FLN, ce qui est presque un pléonasme, méconnaissaient aussi les droits légitimes de la population européenne sur cette terre où ils étaient nés. Il ne faut pas oublier que la conquête et la présence française en Algérie n'a que 130 années de durée. C'est pas très long. Et dans le premier homme, Camus explique que c'est une génération qui n'avait pas de profondeur historique. C'est comme une voiture qui n'a pas de marche arrière. Donc on était obligé de vivre dans l'instant, et quand l'instant devenait trop anxiogène, ben, ça entraînait des paniques et des raidissements parfois très très violents des comportements. Et c'est pour ça que Camus, sachant aussi que la condition qui avait été faite aux Arabes d'Algérie était insupportable, donc il a eu cette attitude qui est une attitude extrêmement douloureuse, qui est de se taire. Pour moi, c'est très très douloureux parce que le silence de Camus, c'est pas le silence du psychanalyste, c'est le silence de quelqu'un qui ne peut plus parler. Et ça devait être extrêmement douloureux pour lui. Vous voyez, là, je commence presque à être un peu véhément. Ça devait être très douloureux pour lui parce qu'il a beaucoup souffert du mutisme de sa mère. Voilà encore deux grands écrivains qui étaient sous l'emprise d'une image maternelle aussi très prégnante. Et Camus a vécu dans cette douleur-là, dont il sentait bien que ses collègues en littérature la surplombaient, ne la comprenaient pas.
Donc là, vous faites allusion effectivement à un épisode particulier, qui est qu'à un moment donné, Camus, après avoir beaucoup parlé de tous ces sujets-là, a considéré que ça ne servait plus à rien de parler. Et donc, plutôt que d'être au milieu des extrémistes, il valait mieux se taire.
Valait mieux se taire. Et puis, alors, là aussi, il ne faut pas oublier ce point qui est très, très important. Faire de la littérature une instance d'appel. C'est-à-dire, déjà, il concevait ce qui aurait dû être son œuvre majeure, hein, c'est-à-dire la série du premier homme. Et quand on voit, essayer d'expliquer la tragédie de cette terre et en même temps essayer d'expliquer comment on aurait pu s'en sortir si on avait eu un peu de temps. D'ailleurs, vous voyez que du point de vue des politiques contemporaines, on a tiré les leçons de ces situations. Quand des pays veulent accéder à l'indépendance, on ménage une phase qu'on appelle de transition. Ça a été vrai pour l'Europe de l'Est, c'est vrai pour les pays arabes aujourd'hui. Mais là, l'Algérie a été précipitée dans l'indépendance de but en blanc avec des drames et des tragédies dont on n'est toujours pas sorti.
Il faut reconnaître, et puis ce sera notre, ma dernière question, il faut reconnaître quand même aux deux un double courage. Le premier, parce que on les oppose de façon un peu abstraite, mais dans la situation concrète, et vous êtes mieux placé que personne pour connaître ces situations concrètes-là, dans ces situations concrètes, tous les deux donc, ont eu le double courage. Un, de penser contre eux-mêmes, premièrement, donc de ne pas être déterminé par leur appartenance.
Oui, bien sûr.
Et deux, d'être en permanence sous les coups des amis, des ennemis qui trouvent que leur position à l'un et à l'autre, dans leur camp respectif, ne sont pas dignes de ce qu'ils sont et du camp qu'ils seraient censés représenter.
Vous savez, moi, comme tous les jeunes Européens d'Algérie, j'étais pour l'Algérie française. J'étais dans la chorale qui a accueilli De Gaulle le 5 juin 1958 à Constantine, mais je ne me doutais pas que De Gaulle allait comme ça jeter l'Algérie dans l'indépendance avec tant de morts, tant de violences. Mais c'est quand je suis revenu en France, à partir de septembre 1961, que je me suis mis à lire vraiment Mauriac et Camus, que je n'avais pas lu en Algérie. En Algérie, moi, je lisais surtout Zola, Hugo. Et c'est arrivé en France, d'abord que j'ai commencé à lire l'histoire de l'Algérie, parce qu'on ne nous l'enseignait pas, et que j'ai découvert ces deux grands auteurs, et qu'à partir de là, j'ai essayé de me forger mon propre jugement sur cette affaire. J'avais fait, sur ce sujet là, des deux auteurs, une conférence à l'Université Bar-Ilan, au département de français de l'Université Bar-Ilan, à la fin des années 70, où j'avais déjà esquissé le rapprochement entre ces deux esprits, mais il a fallu cette occasion avec Jean-François Mattei pour enfin écrire ce texte. Vous voyez comme quoi l'écriture obéit aussi à sa propre maturation. C'est deux écrivains que je relis tout le temps. Et je les relis parce qu'à chaque fois que je suis tenté, puisque j'enseigne le droit aussi, je suis tenté par le simplisme, que je suis heurté par le manichéisme, eh bien je relis ces grands textes-là et je reviens au sens non pas de la relativité, parce que les deux avaient des positions qui étaient très très affirmées, mais au fait que les grandes valeurs, loin de nous simplifier la vie, la rendent extrêmement difficile. Et comme dit Machado, le grand écrivain espagnol, il y a des moments où on doit faire face.
Je crois qu'il y a deux vertus à ce débat et à ces deux débats qui sont effectivement exemplaires. Un, on constate bien qu'il y a une pensée en mouvement et que deux, on peut avoir un sens un peu théorique de la justice, ce qu'il faut faire. Mais quand on est, comme vous le dites, dans le concret des situations et des urgences des situations, comment est-ce qu'on se détermine par rapport à son propre arrière-fond philosophique, religieux, intellectuel? Voilà, c'est ça qui est quand même assez exemplaire.
Si vous le permettez, je donnerai juste une dernière notation, mais qui est vraiment existentielle et charnelle. Il se trouve que lorsque le putsch des généraux s'est produit, moi je me trouvais à Paris. Donc je me suis rendu à un foyer d'étudiants pour être hébergé. Et il se trouve que dans ce foyer, il y avait un énorme débat sur la tentative de putsch, sur quelle réaction fallait-il avoir. Et je dois dire que j'ai été vraiment meurtri au plus profond de moi quand je voyais des étudiants de mon âge nous traiter à nous, les Européens d'Algérie, de fascistes, de nazis. Et voilà. C'est une des raisons pour lesquelles, par la suite, je n'ai plus jamais adhéré à un mouvement étudiant. Et quand je suis arrivé à Constantine, j'ai pu retourner à Constantine, le pays commençait, l'Ouest s'était déclenché, le pays était à feu et à sang, donc on tirait dans tous les coins de rue, quoi, et des gens étaient abattus comme ça, de manière parfaitement anonyme, gratuite. Et un matin, on est venu me dire, comme ça, dans un moment de panique, que mon père avait été abattu. Et heureusement, c'était une fausse nouvelle. Mais vous voyez, quand on vit des situations de ce type-là, et que l'on sent que ces situations sont jugées de haut, de manière extrêmement binaire, voilà, on finit quand même par douter de l'honnêteté intellectuelle de ceux qui parlent comme ça. Mais tous ces auteurs, Aragon, Mauriac, Sartre, je les ai lus. Je les ai lus en France. Et ensuite, étant moi-même engagé dans des études de droit et de sciences politiques, j'ai essayé de comprendre leur point de vue. Voilà. Et puis, j'ai essayé de me réconcilier un peu avec eux, quoi. Parce qu'en plus, c'était des grands écrivains.
Absolument, et qui le restent. Donc, je renvoie donc, nos éditeurs à votre article donc, intitulé « Camus et Mauriac, quelle justice ?» Donc, dans ce livre, Albert Camus, du refus au consentement, publié au PUF et coordonné donc, par Albert Camus. Je renvoie aussi, donc, pour mieux vous connaître, non seulement à l'ensemble de votre œuvre, mais en particulier pour les éléments auxquels vous avez fait référence, donc à vos deux livres de récits autobiographiques, pouvons-nous dire, et apparemment un troisième ne serait tardé. Donc le premier, Le Pays d'avant, et le deuxième, donc publié tous les deux chez Michalon, Les Pays d'après, donc le deuxième publié en 2009. Je renvoie aussi, donc pour ceux que ça intéresse, à cet ensemble de contributions de Camus dans Combat, donc publié chez Gallimard, cahier Albert Camus, et puis bon, enfin, différents autres ouvrages, et en particulier aussi, et j'en aurai terminé, donc aux mémoires politiques de François Mauriac, qui reprend effectivement différentes de ses contributions, et il me semble que vous nous avez bien éclairé sur cette à la fois difficulté de ces deux grands écrivains qui le restent pour fixer des justes positions à la fois vis-à-vis d'eux-mêmes et à la fois vis-à-vis de leur interlocuteur et ou adversaire, et difficulté accrue par le fait que la situation était dans les deux cas troublée, agitée, difficile, et que chacun s'exposait, ce qui a été le cas, aux oppositions de leur propre camp et de ceux qui étaient beaucoup plus extrémistes que la modération qu'ils cherchaient à promouvoir. Raphaël Drey, merci beaucoup d'être venu nous voir.
C'est moi qui vous remercie.
Et donc je renvoie nos auditeurs à tous ces livres-là. Merci.